Bien, donc on va aller dans la première lettre de Jean, chapitre 3. En fait, on va regarder les versets 1 à 3, mais dans notre première lecture, là, on va lire à partir du verset 28 du chapitre 2. Les chapitres ne sont pas coupés très très bien. Mais bon. Donc 1 Jean 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Ce verset-là est presque plus important que les versets qu'on va voir. Ils expliquent là où veut en venir Jean. Verset 1 du chapitre 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » C'est la parole de Dieu. Alors, ce texte-là de 1 Jean 3, 1 à 3, m'a tiré par la manche pendant la période de Noël, pour diverses raisons. Et, en fait, c'est un texte qu'on connaît bien, qui semble facile. Mais quand on commence à creuser, on s'aperçoit que, il est complexe. Il est très riche plutôt. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de lire toute la lettre, peut-être de recommencer d'autres fois encore. Parce qu'il y a besoin de mettre ça dans le contexte. Parce qu'autrement, on va le comprendre, mais très superficiellement. Et donc, on va le replacer dans tout le contexte, pas d'une manière technique, mais pour voir un petit peu où Jean veut en venir. Et donc, l'introduction sera un petit peu longue, je vous préviens. Mais donc, il y aura d'autres messages, alors ça fait un peu l'équivalent. L'apôtre Jean est un homme très âgé quand il prend la plume pour écrire ce qu'on appelle sa première lettre qui nous est restée. Il est très probablement le dernier apôtre qui est en vie. Alors, même s'il était très jeune à l'époque de la vie de Jésus sur terre, là il est très âgé. Et comme cela arrive souvent, pas toujours, à ceux qui ont son âge, il a acquis une grande sagesse. Il a aussi vu beaucoup de choses, bonnes et mauvaises, et souvent c'est là que la sagesse vient. Il a vu la graine, vous savez, la petite graine qui est petite comme un grain de sénevé, qui était si petite il y a si longtemps. Il l'a vu devenir un arbre avec une taille assez respectable et il voit qu'elle continue à grandir. Cet arbre grandit de plus en plus et il s'en est grandement réjoui. Par exemple, au chapitre 1, verset 4, il parle d'une joie parfaite, une joie qui est complète. Mais Jean a vu aussi beaucoup d'hérésies se développer et menacer l'Évangile et l'Église. Et il a été souvent en plein au centre de ces combats. Et il a combattu pour que les hérétiques, ceux qu'il désigne vers la fin du chapitre 2, verset 26, il parle de ceux qui vous égarent. Alors il a combattu pour que ces gens-là ne déchirent pas le peuple de Dieu. Et une partie de ces lettres ont cette motivation. Mais surtout, il a pu voir comment une tendance qui est naturelle au cœur de l'homme, cœur de l'être humain, cette tendance peut facilement s'infiltrer dans les pensées et dans la vie du croyant. Et, par suite, cette influence peut infecter la vie de l'Église, le témoignage de l'Église, et donc son impact, son rayonnement dans le monde. Donc il y a ce danger qui est très commun à l'esprit de l'être humain. Et quel est ce danger si grand et si insidieux, c'est-à-dire si naturel à l'homme, on pourrait dire. il est important de le savoir car ce danger continue de menacer avec autant de force le peuple de Dieu qu'il le faisait à la fin du premier siècle quand Jean écrivait. Quel est ce danger? Eh bien, c'est le danger de tronquer la puissance de l'Évangile et de la limiter d'un côté, parce qu'on a des gens qui font le balancier, d'un côté à limiter le salut de Dieu à un système de doctrine, ce qu'on pourrait qualifier en genre de sténo par l'intellectualisme, un système intellectuel. Ou alors par des jeux de pensée, ce qu'on pourrait qualifier de, le mot m'échappe là, mysticisme. C'est un mot que j'ai toujours tendance à oublier. Hein, donc il y a ce côté-là, soit c'est que les pensées, que les logiques, l'autre côté c'est un petit peu, on part dans toutes sortes de choses. Mais ces deux résultats, en fait ces deux dérives, ont pour résultat qu'elles n'ont pas d'impact sur la réalité du vécu du croyant. Le croyant va savoir ou prétendre des tas de choses, mais ça ne touche pas son vécu. On est devenu expert en vérité, mais la vérité n'a plus de mordant sur la vie et sur la dynamique de vie. Donc vous voyez le danger qu'on peut avoir, d'un côté ou de l'autre. Mais c'est quelque chose qui vient, et Jean l'a vu tellement de fois qu'il doit écrire. Rappelons-nous, par exemple, les propos de la lettre que le Seigneur Jésus lui-même envoie par l'entremise de Jean à l'église d'Éphèse. On l'a vu dans l'Apocalypse, au début. Éphèse, où résidait Jean. Vous voyez, il y a un lien là. Voilà une église active et en possession d'un grand discernement doctrinal. Ils sont arrivés à détecter des erreurs, ils les ont chassées de leur milieu. Et voilà une église qui a aussi une détermination solide. Vous regarderez le passage de la lettre à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. C'est très très clair. Mais c'est une église dont la relation vivante avec le Seigneur s'est ternie et s'est affadie. Il n'y a plus ce bouillonnement. Et quel est le résultat? Leur amour, et donc leur ferveur spirituelle, s'est évaporé. Ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Leur amour, donc, a perdu, et sa ferveur spirituelle s'est évaporée. Ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes dans un genre d'immobilisme stérile. Et on voit pourquoi le Seigneur dit « Reviens et pratique tes premières œuvres ». Ce qui nous indique qu'en fait, ils ne pratiquaient plus d'œuvres. On sait que ce ne sont pas des œuvres pour gagner le salut, bien entendu. Mais ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Quelque chose qu'il dit aussi aux Éphésiens. C'est un peu comme, on dira, un vieux couple où la routine est venue remplacer l'éclat de l'amour exubérant du début. Et le résultat, c'est qu'on ne fait plus rien. Et Jean a vu cela se produire en général dans les églises. Et voilà pourquoi il écrit. Donc Jean, c'est un apôtre qui a une grande sensibilité. On pense à Pierre. Pierre, c'est celui qui a une grande fougue. Et Jean n'a pas sa fougue. Paul a cet intellect que Jean n'a pas, ou ne manifeste pas tant, tout au moins. Mais Jean, il a une sensibilité, n'est-ce pas? Et voilà qu'il détecte ce penchant naturel si répandu qui est un danger grave pour l'Évangile et pour l'Église. Et alors, âgé comme il est, il prend sa plume pour alerter et encourager ses frères, un peu comme cette lettre à l'église d'Éphèse. Reviens, pratique, reviens dans la ferveur. Et qu'est-ce qu'il annonce? Est-ce qu'il annonce un système, une expérience? Non, il parle de la vie. Regardez, chapitre 1, verset 2. Nous vous annonçons la vie éternelle. Mais ce n'est pas un simple sujet, objet de l'esprit. Il l'annonce afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et la communion dont il parle, c'est la communion avec Dieu. Verset 3, « Afin que notre joie soit parfaite. » Verset 4. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit avoir un impact dans la vie du croyant. Alors, la question peut se poser, est-ce que je crois tant à la grâce que finalement ça ne touche plus ma vie? C'est pourquoi Jean commence par dresser un contraste. Alors, il ne dresse pas un contraste entre dire et faire. Parce que c'est ce qu'on pense souvent. Mais en fait, il y a beaucoup d'actions qui sont très stériles. Mais le contraste que Jean dresse, en commençant au chapitre 1, c'est un contraste entre dire et vivre. Et bien entendu, c'est tout à fait différent. Celui qui vit réellement, vraiment, il va faire quelque chose. Et on a toujours cette illustration qu'on répète, mais c'est bon de la répéter. Quand le petit bébé naît, s'il ne fait rien, qu'est-ce que la sage-femme fait? La première chose qu'elle fait, elle le calotte pour qu'il pleure. Parce que s'il ne pleure pas, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de vie, très probablement. Voilà. Et donc c'est ce que Jean vise ici, un contraste entre dire et vivre. Ainsi, nous voyons Jean écrire, « Si nous disons, verset 6 du chapitre 1, si nous disons et que nous marchions, vous voyez, on a les deux comme ça, si nous disons, si nous confessons, verset 8 et 9, celui qui dit mais qui ne garde pas, c'est un menteur. » Au chapitre 2, verset 4, « Celui qui garde mes commandements n'est pas quelqu'un qui fait tous ses efforts pour plaire à Dieu, mais c'est quelqu'un en qui l'amour de Dieu est véritablement parfait. » C'est-à-dire qu'il trouve ça, toute son expression, verset 5 du chapitre 2. Vous voyez pourquoi je vous ai demandé de lire en avance. « Je vous ai écrit parce que vous avez connu. » Et on sait que dans l'Écriture, ce verbe « connaître » est beaucoup plus profond que ce qu'on utilise maintenant. « Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. » Vous voyez, là, on a l'idée d'une vie, quelque chose qui bat de vie. Beaucoup de gens, surtout dans la sphère de l'Église, brillent de tout leur feu, au point d'impressionner même les élus. Mais Jean a vécu trop longtemps pour être naïf. Il a vu des gens venir, briller, et puis finalement s'opposer et disparaître. Que s'est-il passé ? Ils sont sortis du milieu de nous, dit-il, chapitre 2, verset 19. Ils sont présents pour un temps dans l'Église de Christ. Ils se sont révélés finalement être des antéchrists ou antichrists, c'est-à-dire ne pas être des nôtres, mais ils ont semblé l'être. Oui. Ils ont dit beaucoup de choses, mais finalement, ils ne font pas, ils ne vivent pas comme on s'attend à ce que quelqu'un qui soit touché par la vie de Dieu vive. Où est la différence? Qu'est-ce qu'il manquait à ces gens? Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Et il parle de celui qui n'a pas le Père et le Fils. Verset 22-23 du chapitre 2. Quelle est cette onction dont il parle? L'onction de l'Esprit. C'est quoi? C'est la vie nouvelle et spirituelle qui respire, qui bat au fond du cœur, où l'Esprit de Dieu l'a placé. Cette onction, elle demeure, elle enseigne, elle est véritable, elle ne rend point confus. Versets 27 à 29. Vous voyez comme tout le contexte où se situe ce passage que nous voulons examiner. Cette onction, elle amène le croyant à ressembler au Dieu dont la vie l'habite. Regardez le verset 29. Il est tellement clair. Si vous savez que Dieu est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est son enfant. En fait, c'est ce que Jean vraiment veut nous montrer ici. Voilà le secret de Jean. La vie de Dieu dans l'âme de l'homme transforme et affermit la vie de l'homme. On ne peut pas vivre de la même manière. Ce n'est pas possible. Et c'est le cœur de l'Évangile, mes amis, comme le montrent quantité de passages qui ont dû vous venir à l'esprit alors que je parlais. Souvent, vous savez, le prédicateur développe son point, on dit « Ah, pourquoi il n'a pas... » Voilà, il y a des tas de passages qui viennent. Il y en a qui me sont venus en tête, là, il faudra que je trouve les références. Mais c'est vraiment le cœur de l'Évangile. Il n'y a pas d'Évangile sans ça. Toute la différence entre le simple religieux et le vrai enfant de Dieu réside là. L'un d'eux vit et il s'active dans la chair. Il fait beaucoup de choses. Il brille aux yeux des hommes, mais sans aucune vraie relation avec Dieu. Et il pense qu'il l'a, hein, parce qu'il fait beaucoup de choses. On pense à Paul, Saul de Tarse plutôt, vous voyez. L'autre, par la grâce, attention, c'est par la grâce. L'autre abrite la vie de Dieu qui lui a été communiquée. Donc ce n'est pas une œuvre qu'on fabrique, c'est Dieu qui donne. Mais cette vie-là vit. Où nous plaçons-nous par rapport à ce secret de Jean? Où est-ce que j'en suis moi-même? La question n'est pas oisive, car si la vie de Dieu ne vibre pas en nous, alors c'est l'esprit même de l'Antichrist qui nous habite. Et Jean est très clair, là, il dit, il y a un Antichrist qui vient, mais déjà maintenant, il y a des Antichrists. C'est-à-dire que l'esprit de l'Antichrist est là. Pas le dernier, mais il est là. Il est là. Et si ça n'est pas un esprit, c'est un autre esprit. Donc, la question n'est pas oisive du tout. Du tout. Voici donc le contexte dans lequel se situe notre texte. Il y a des tas d'autres choses qu'on pourrait dire en plus. Mais par rapport à ce que Jean dit dans ces trois versets, voilà le contexte qui peut nous permettre de retirer la moelle de son texte. Dieu communique sa vie elle-même à ceux qu'il a aimés de toute éternité. Et rien de moins que cela ne procure le salut. Si Dieu ne donne pas sa vie, il n'y a pas de salut. Un point très. Mais, et c'est un grand, mais cette vie que Dieu donne apporte la vie éternelle. Donc, pour aborder notre texte, donc chapitre 3, versets 1 à 3, on va le faire en trois volets. Donc, ce matin, et puis on verra pour la suite. Donc, l'enfant de Dieu, premièrement, on va voir son statut. Ça, c'est aujourd'hui. Ensuite, on verra sa sécurité. Et puis, en troisième lieu, il fallait garder un genre d'allitération, sa cible. Voilà, on fait une petite entorse à l'orthographe française, hein, le statut, la sécurité, la cible. Ça permet de nous rappeler ces choses-là. Ce qui nous donnera donc deux autres messages, on verra ça au mois de mars peut-être. Pour celui-ci, on va se concentrer sur le verset 1 et une partie du verset 2. Et on va simplement se laisser guider par le texte, ce qui est probablement une bonne chose. Premier point, on commence avec le texte. Et le premier point s'intitule avec notre premier mot, « voyez ». Voyez. C'est un de ces mots qui ont une importance capitale dans l'Écriture, mais sur lequel on peut glisser facilement sans même le remarquer. Quand Jean écrit « voyez », son cœur est sur le point d'exploser d'émerveillement. Rappelons, c'est un homme d'une grande sensibilité, mais on le sent dans son texte, il est là, il est presque à exploser. Et je me demande, mes amis, si on est toujours aussi émerveillé par la merveille de l'Évangile. L'Écriture emploie ce mot très fréquemment, ce « voyez ». Souvent, c'est traduit « voici » dans nos versions, ou « voilà ». Et c'est un mot qu'il est intéressant de voir quand est-ce que l'Écriture l'utilise. Alors, il faudra, vous verrez, vous prendrez une concordance et puis vous ferez une étude, là, ça peut nous emmener assez loin. Mais par exemple, on trouve ce mot utilisé quand Moïse est face au buisson ardent. Exode 3, 2. Et la question se pose, est-ce que vous vous êtes déjà trouvé en présence de Dieu lui-même et vous n'avez pas pris garde à le voir? Mais l'Écriture dit, pour Moïse, il était face à cette apparition, cette manifestation du Fils de Dieu, selon ce que la Bible nous dit, et il nous a dit, voyez, voici, arrêtez-vous pour regarder, vois ici. Job utilise le mot, il dit en chapitre 28, verset 28, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. » Est-ce que je suis sage? Il y a une manière de le savoir. Est-ce que je crains l'Éternel? On trouve aussi ce mot, pas dans les versions que nous utilisons, mais dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 15 et 16. Alors en français, il n'est pas traduit, mais c'est l'amour émerveillé des amants du cantique. Et puis on le retrouve en Matthieu 1, 23, à la venue de Christ, ou dans le chapitre 27, verset 5, « Voici ton roi vient !» Pas comme les gens l'ont attendu, mais il vient. Et à chacun de nous de prendre une concordance, comme je dis, d'aller regarder toutes les autres références. C'est assez intéressant parce que c'est un mot qui arrête l'attention. Et donc, on n'arrête pas l'attention pour dire une bondieuserie ou quelque chose de commun. Non, c'est quelque chose d'important. Même ayant atteint un âge avancé, Jean n'a qu'à réfléchir à ce que Dieu a fait pour son peuple pour être rempli d'un émerveillement indicible qui fait déborder son cœur. Il a autrefois posé sa tête sur la poitrine même du Seigneur et il a fait partie du cercle restreint. C'était lui qui était sur la montagne de la Transfiguration, par exemple. Vous voyez, lui qui était tout jeune, peut-être 20 ans. Mais cela, ce n'est qu'un souvenir du passé. À l'opposé, Jean, il se régale à la pensée de ce qu'il a reçu du Père. Voyez ! Et mes amis, est-ce que c'est là notre expérience ? Est-ce que c'est là notre expérience ? Est-ce que c'est cela qui fait bondir notre cœur de joie ? Ou plutôt les dons que Dieu donne, ou voilà, toutes sortes de choses. Non, est-ce que c'est là tout ce que Dieu a fait pour son peuple? Ou bien, est-ce que la relation que vous avez avec Dieu, elle est froide ou tiède, correcte, d'une certaine justice, mais sans flamme, sans flamme? Vous savez, c'est un peu comme les enfants. Et quand je préparais ça, ça m'a tout de suite fait penser à quelqu'un qui est proche de notre cœur. Mais le petit Mac, Mackenzie, en Angleterre. Bon, il est venu ici dans la maison et bon, il a un grand-père qui est très intéressé dans les avions militaires. Alors voilà, le petit, il est intéressé. Mais quand je lui montre, par exemple, quand on fait les vidéos, alors je vais lui montrer parce que l'écran de veille vient comme ça. Alors, il n'est pas là à regarder, ouais, pas mal. Mais c'est « look, look, voyez, voyez, voici ». Et ça, c'est l'enfant de Dieu, le vrai enfant de Dieu. C'est ça que Jean cherche, vous voyez. Ça nous fait sourire, mais pour l'enfant, mais c'est cette ferveur qui est là. Et la question se pose pour nous. Est-ce qu'on a cette ferveur? Oh, puissions-nous ne jamais perdre ce sentiment d'émerveillement? Puissions-nous ne jamais nous contenter de moins? De moins. Voyez. Des petits mots qui sont importants dans la parole de Dieu. En deuxième lieu, nous allons continuer. Voyez, quel amour! Et Jean continue avec son émerveillement. Quel amour! ce qui émerveille tant ce vieil apôtre Jean, c'est l'amour de Dieu. On aurait pu penser qu'après toutes ces années, il s'y serait habitué, au point de ne plus le voir un peu comme les objets de la vie quotidienne. Mais non, Jean passe du temps à méditer sur la réalité de la situation. Dieu a aimé son peuple, Dieu l'a aimé lui, et il n'en revient pas. Il n'en revient pas, même pas ses 90 ans. Déjà, l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse notre imagination. On ne peut pas le saisir. C'est l'essence de son être. Dieu est amour. Mais quand on réfléchit à la nature de cet amour, alors c'est les portes du ciel qui s'ouvrent. Parce que la majeure partie des amours que nous rencontrons dans le monde et qui nous touchent, nous, que nous éprouvons nous-mêmes, la majeure partie de ces amours, ça consiste en ce que nous recevons. J'aime telle personne car elle peut me procurer beaucoup de joie et de bonheur. J'ai du mal à aimer telle autre personne parce que franchement, j'en retire rien. Ou je vais vivre un moment qui n'est pas vraiment fantastique parce que j'ai pas reçu l'amour des autres. Ça, c'est l'amour plus à la dimension humaine, mais l'amour de Dieu est bien différent. Il est véritable. Il ne retire rien de l'objet de son amour. Bien au contraire. Il aime son peuple et qu'est-ce qu'il récolte ? Des problèmes. Il aime, Dieu aime, parce qu'il aime. Et quand on explique comme ça, on est un peu à l'étroit, hein. Il aime parce qu'il aime en Christ. Vous qui vous voyez comme dénué de toute valeur, qui vous méprisez même peut-être, sachez qu'il y a de quoi, en fait. Et il y a même plus de raisons de se mépriser qu'on en voit soi-même. Dans la réalité, nous sommes des rebelles. Mais tournez les regards vers Christ et voyez quel amour le Père a pour le Fils. Un amour qui dépasse ce qu'un être humain peut dire. Et quiconque est en Christ bénéficie du même amour. Vous voyez votre déchéance, votre péché, et c'est très réel. Mais regardez à Christ, car il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ a en fait ôté l'objet de la condamnation. Voyez quel amour. Ici, en fait, Jean utilise une expression littérale. Ça aurait été merveilleux si ça avait été traduit comme ça. En fait, il dit, de quel pays vient cet amour ? Alors, vous voyez pourquoi Monsieur Segond a traduit comme il a traduit. On comprend. Mais voyez, cet amour ne vient... D'où est-ce qu'il vient ? Il n'est pas d'ici. Il n'est pas d'ici. Et c'est une expression qui a déjà été utilisée quand les disciples sont dans la barque avec le Seigneur. Vous vous rappelez ? Et il y a cette tempête et le Seigneur se lève et il commande au vent et à la mer et ils lui obéissent. Il dit, mais de quel pays vient cet homme ? Ça, c'est exactement la même expression. Il n'est pas d'ici. Il n'est pas d'ici. Non, ce n'est pas un amour qui vient d'ici-bas. Il est étranger à ce pauvre monde. Et c'est donc cette expression. Mais de quel pays est-ce qu'il vient ? Et cela nous rappelle que l'amour de Dieu n'appartient pas plus à ce monde que Jésus est un homme ordinaire. Ils sont de la même origine. Comme le dit Jérémie dans sa prophétie, au chapitre 10, verset 23, « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. » Et même, on pourrait le traduire, « La voix de l'homme n'est pas en lui-même. » N'est-ce pas ? Non, elle vient d'en dehors. Et c'est ça, le grand malheur de l'homme, parce qu'il cherche en lui-même. Mais ce n'est pas là. Le salut du pécheur vient du dehors de cette création, du dehors de nos capacités. Est-ce que nous avons bien saisi cela ? Et est-ce que nous avons saisi cela au point que notre vie est transformée ? Parce qu'on peut l'avoir saisi intellectuellement, mais sans que cela ait une puissance dans notre vie. L'amour de Dieu, si vaste, si rempli de grâce, qu'il n'a besoin de rien dans son objet pour s'épancher, voilà l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut s'étonner de voir l'apôtre Jean, vieux, expérimenté, sage, tout ça, mais encore transporté d'émerveillement comme un gamin? Est-ce qu'on peut s'étonner? Non, on s'étonne plutôt de voir un croyant ne pas être renversé d'émerveillement quand il pense à l'amour de Dieu pour lui. Voyez quel amour. Et Jean continue, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous a témoigné. Là encore, Jean dit littéralement, nous a donné. Nous a donné. Il nous a recouvert. En fait, c'est l'expression, ça peut se traduire comme ça. L'amour de Dieu n'est pas une hypothèse plantée dans les nuages pour qui veut bien arriver à la saisir. Non, et heureusement, parce que en raison d'un cœur rebelle qu'on a par nature, personne ne voudrait ni ne pourrait atteindre cet amour qui est là. Non, il a donné. Dieu a donné. On peut être témoin de ce que cet amour est planté dans le cœur. Ça se voit. Ça se voit. Et il est très probable que Jean pense ici à un autre endroit où il a écrit quelque chose de semblable. Et en fait, c'est intéressant, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais il calque ses paroles sur cet autre passage qu'il a écrit bien avant. Et vous connaissez ce passage, le verset le plus connu de la Bible, n'est-ce pas ? Car Dieu a tant aimé le monde, un monde dont il ne reçoit pas grand-chose, qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Oui, Dieu a témoigné, a donné son amour. C'est indubitable, on ne peut pas en douter, car il a donné le Fils. Le Fils. Et quel en a été le résultat ? Jean pense à ce qu'il mérite par nature, la mort éternelle, la perdition. Mais Dieu a donné afin que quiconque croit ne périsse pas, merveille, mais qu'il reçoive la vie éternelle. La merveille de l'amour de Dieu, mes amis. Qui peut dire toute l'étendue, en dire toute l'étendue? Et quel est ce cantique, je n'arrive pas à me rappeler, c'est Claire Lys de Benoît qui le... on vide les océans pour faire de l'encre, pour écrire, n'est-ce pas? Peu importe, mais vous savez de quoi je parle. Là. Même si on vidait les océans, on ne pourrait pas avoir de l'encre suffisamment pour dire tout l'amour de Dieu. Elle avait vraiment saisi ça. Hein? Oui, oui. Non, l'amour, qui peut dire toute l'étendue de l'amour de Dieu? Mais Jean continue. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est notre point ici, enfants de Dieu. C'est lequel, Laure?
63.
63, voilà.
De loin sur
place. De loin, voilà, voilà. Oui, de très loin, très loin. Enfants de Dieu, Dieu nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La Bible présente la merveilleuse vérité de l'adoption par Dieu de pécheurs qu'il a choisi de toute éternité pour être dans sa propre famille, avec la même intimité, n'est-ce pas? C'est un grand réconfort pour le croyant. Il n'est plus privé du droit de cité parmi le peuple de Dieu. Il n'est plus étranger, gens du dehors, non. Mais en Christ, par la grâce de Dieu, il est concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. Et dans quelques temps, Philippe et moi, on va passer le long d'une queue, comme ça, pour passer devant un guichet, où on va vérifier si on a tout ce qu'il faut, tous les documents qu'il faut pour entrer le pays. Mais là, on va vraiment nous faire sentir qu'on est étranger. Étranger. Les autres, ils n'ont rien de plus que nous, souvent ils ont même moins que nous, et tout ça, ils peuvent passer. C'est les gens du pays. Mais nous, on est étrangers, on nous fait bien sentir. Bon, ceux qui viennent dans l'autre sens, on leur fait bien sentir aussi. Mais vous voyez, et c'est là, celui qui n'est pas dans la famille de Dieu, il est étranger et il le sent. Mais là maintenant, Dieu, par son amour, on est enfant de Dieu. dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu. Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions, dit Paul dans les Galates, l'adoption. L'adoption. C'est une chose merveilleuse. Mais ce n'est pas ce dont Jean parle ici. C'est une vérité glorieuse, mais ce n'est pas ce dont parle Jean ici. Oui, être légalement adopté dans la famille de Dieu, c'est une bénédiction indescriptible. Mais il y a plus. Il y a plus. Rappelez-vous que Jean écrit pour protéger ses frères d'une connaissance stérile, d'un intellectualisme ou d'un mysticisme vide de sens. Ne nous reposons jamais seulement sur un acte légal par lequel Dieu vous aurait fait entrer dans sa famille. On n'entre pas dans sa famille sans cet acte légal. N'est-ce pas? Mais ne nous arrêtons jamais là. Ne nous arrêtons jamais là. Il a fait cela, c'est vrai, mais en vertu de l'œuvre de Christ et par la puissance de son Esprit, il nous communique sa vie même. La vie de Dieu dans l'âme de l'homme. Ce sont des mots qui n'appartiennent pas à ce bas monde. De telle sorte que maintenant, nous pouvons vivre en nouveauté de vie. Ainsi, nous sommes délivrés de la tyrannie des exigences de la loi. Non parce que la loi est mauvaise, mais parce qu'il y a une autre loi qui pousse le croyant, c'est la vie même de Dieu qui demeure en lui par l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez, par nature, on va faire certaines choses qu'on pense que Dieu trouve bonnes. Et ce n'est pas impossible, ça. Mais la motivation, la dynamique pour ça vient du dehors. Elle ne touche pas le cœur, vraiment. Elle va toucher simplement les façons de faire, les façons de vivre. Mais là, maintenant, il y a cette autre loi, c'est-à-dire cette vie, cette force qui vient du dedans. C'est pour ça que Jean parle de cette onction que vous avez reçue. Et vous n'avez pas besoin de quelqu'un vous enseigne. Or, il n'arrête pas de les enseigner. Qu'est-ce qu'il veut dire? Simplement qu'il n'a pas besoin de placer cette connaissance. Elle est là. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est l'attiser avec la parole de Dieu. Vous voyez? Parce qu'elle est là. Il y a résonance entre la parole de Dieu, l'œuvre de l'Esprit et la vie véritable, éternelle, qui est dans le cœur du vrai croyant. Et il n'y a pas de salut sans ça. Il n'y a pas de salut sans ça. Ainsi, le croyant véritable peut être appelé enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à son Père. Jean l'a déjà dit, si vous savez qu'il, c'est-à-dire Dieu, c'est le verset 29 du chapitre précédent. Si vous savez que Dieu est juste, alors reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Dieu n'est pas juste parce qu'il est forcé d'être juste. Vous voyez? Et il y a quelqu'un qui peut pratiquer la justice parce que il a peur de la condamnation qui suit la pratique de l'injustice. Mais non, là on parle de quelqu'un qui, en fait, a la justice qui vibre au fond de lui. Alors, pas parfaitement parce qu'il est encore dans cette chair, mais voilà. Et alors, celui-là, on sait qu'il est né de lui. Pourquoi? Il lui ressemble. Il lui ressemble. Tel est le secret de Jean, mes amis. Une nouvelle vie qui donne de voir le royaume des cieux et qui transforme la vie. Transforme la vie. Jean a encore beaucoup à nous dire et on le verra bientôt, mais posons-nous déjà la question. Est-ce que je vis la vie de Dieu? Ou est-ce que je fais tous les efforts de ma chair pour parvenir à mettre Dieu de mon côté, à l'amadouer? Est-ce que je lutte pour me rendre aimable? Ou est-ce que je suis submergé par la merveille de l'amour de Dieu? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et Jean ajoute ce tout petit « Et nous le sommes !» Et nous le sommes. On verra encore la force de ça la prochaine fois. Mais déjà, mes amis, Soyons mis au défi. Et ne nous contentons de rien de moins que ça. Parce que la merveille de l'amour de Dieu dans notre cœur fera que nous ne sommes pas ni stériles ni oisifs. On ne sera jamais satisfait de soi-même. Non, ça c'est sûr. Mais ne soyons pas stériles ni oisifs. Et ça, c'est cet amour-là, l'émerveillement face à cet amour qui va complètement transformer notre vie. Puisse le Seigneur nous donner la sagesse spirituelle pour comprendre ces choses et surtout que son esprit, par sa puissance et sa vie, nous donne de les vivre. Amen.